Lutte des sidérurgistes et de leurs complices dans les Ardennes, 1979-1984. Documentaire radiophonique en 3 épisodes. Premier épisode. Lutte antinucléaire à chaud et annonce de la fermeture de l'usine à Vireux.
Si j'accepte de parler un peu, c'est pour que il reste des traces, parce que ça va s'effacer. On se bat contre quelque chose qui est imbattable, le pouvoir. Et le pouvoir a fait qu'ils avaient décidé de fermer cette usine. À Vireux, ça a duré 2 ans, grâce à la population, grâce aux gens qui sont venus participer à nos mouvements, des gens de l'extérieur, comme on dit, pas forcément des mauvais, comme ça a pu être dit par l'État. Tous les gens ici étaient déterminés et ils pouvaient mettre 1500 CRS. Ça ne servait à rien. Ce qui était fait, je pense qu'il fallait le faire. Pour les tripes. Pour pouvoir se regarder dans une glace le matin, en se levant. Les manifs ont permis à des gens de se connaître au travers du souci que tout le monde partageait et que tout le monde avait envie de montrer. Et maintenant, ça a laissé les gens sans motivation, avec beaucoup de désillusions sur l'avenir. Les événements de la chair, c'est inoubliable. On ne peut pas l'effacer, parce que ça fait partie de ma vie. Une grande partie de ma vie. Et ça fait partie de mon village.
Deux villages, Chaux et Viremolin. Deux problèmes bien différents, la construction d'une centrale et la fermeture d'une usine sidérurgique. Mais dans les deux cas, les mêmes effets.
Dans la fin des années 70, en fait, c'est la deuxième grande phase du nucléaire français, puisqu'il y a eu une première phase dans les années 60 avec la construction de quelques petites centrales dont Chaux 1. Et après ça, il y a un choix technologique qui s'est fait apparemment au niveau européen où chaque pays s'est spécialisé et la France a fait du nucléaire une de ses spécialités et donc va construire un certain nombre de centrales partout en France avec dans un certain nombre d'endroits des résistances très fortes comme à Chaux, comme à Plogoff, comme à Golfech, contre le réacteur de Cresmalville. Dans ce mouvement, on retrouve un peu d'états de gens d'horizons différents, des révolutionnaires, des antinucléaires qui se définissent que comme antinucléaires, avec des stratégies différentes. Donc nous, on est arrivé tout au début où il a commencé à avoir un comité qui commençait à se mettre en place contre l'implantation d'une deuxième centrale sur Chaux.
Alors moi j'étais à l'époque, j'habitais à Charleville-Mézières, je venais de la région Nord-Pas-de-Calais, de Calais. J'avais participé auparavant à des luttes autour de Gravelines, donc le projet de construction de la centrale de Gravelines. À l'époque, j'étais ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que certains qualifiaient d'inorganisé, inorganisé.
Ben moi, je suis arrivée à Chaux en 1980, j'avais 17 ans, et je faisais aussi partie à l'époque de ce qu'on appelait les radios libres. En 81, il y a eu des gens pour croire effectivement que si les socialistes passaient, ça allait résoudre le problème et il y avait tous ceux qui pensaient que ça ne le résoudrait pas. Mitterrand, ayant été élu, avait annoncé le gel des projets. Il y avait des différences de point de vue sur la stratégie à adopter par rapport à ça, c'est-à-dire que ceux qui voulaient absolument continuer à ce qu'il se passe quelque chose malgré le gel et pas attendre qu'au bout de la période de gel, ils nous disent eh ben là ça se fait, là ça se fait pas. Il y en a qui voulaient absolument maintenir la lutte et donc impulser les fameux samedis de chaque mois. Et il y avait ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas continuer, au contraire, qu'il fallait attendre. Et en disant, oui, mais là, on n'a plus d'objectif. Si on appelle à manifester, ce sera par rapport à quoi, etc. Et il y avait ceux qui disaient, on appelle à manifester pour détruire le plus possible de matériel sur le site, foutre en l'air les piquetages, rentrer dans l'ancienne centrale, etc. Donc, à partir de là, on pouvait très bien imaginer qu'on créait, entre guillemets, une structure clandestine qui appellerait à des manifestations pour faire ce genre de choses. Et c'est ce qui s'est fait.
À partir de ce moment-là, il y a des contacts étroits qui vont se nouer avec un certain nombre de personnes sur Chaux. Ce qui les différencie, à mon avis, d'autres endroits, majoritairement, les gens qui se retrouvent sont des gens qui bossent en usine, qui sont déjà battus pour la plupart dans leurs entreprises, etc. Et donc, c'est là aussi qu'on va retrouver des gens qui travaillent, entre autres, à la chaire à Vireux.
Oui, ce sont des gens qui vont être à l'interface des liens dont on parlera après, mais des liens entre antinucléaire et sidérurgiste.
Moi, j'ai travaillé 22 ans à la chaire.
C'était ton premier boulot
Premier boulot, je suis sorti de l'école et puis j'ai intégré la chaire.
Toi, t'as pris part tout de suite à la lutte antinucléaire à Chaux?
Au début, ça s'est fait une paire de gars ici. Bon, c'était des tracts, c'était des petits trucs bien gentils pour essayer d'ameuter un peu la population. Après, bon, vu que ça n'avait pas grand-chose qui avançait, il y a eu des actions qui ont été un peu plus dures par la suite. Il y a des disponibilités des gens. Ça faisait après les journées de travail. Bon, on était une vingtaine, peut-être. Les deux mouvements n'étaient pas réellement liés, c'est un concours de circonstances qui a fait que ça s'est passé au même moment. Et puis, mais tout le monde à Vireux, tous les sidérurgistes n'étaient pas obligatoirement opposés à la construction de la centrale, c'est clair.
J'ai fait toute ma carrière professionnelle en la chaire à Vireux. L'usine de Vireux était reconnue dans la pointe depuis des décennies comme étant une source d'emploi, je veux dire, certain. Ça occupait un personnel belge déjà d'importance, sans compter maintenant les immigrés, parce qu'on a eu jusque 17 nationalités différentes qui composaient le personnel. Nord-africain en particulier, on a eu quelques Yougoslaves, on a eu Je vais dire des Noirs sans que ça ne soit préservatif, c'est parce que je ne le situe pas bien dans la contrée africaine d'où il provenait. On a eu Portugais, Italiens, beaucoup. C'est pour un peu expliquer le personnel qui composait la boutique.
Nous, on a vu qu'en 1973, il y avait 1700 salariés à la chaire.
Ouais.
Et il nous semblait qu'en 82, donc à la fermeture, à l'annonce de la fermeture, il y avait plus que 800 salariés qui étaient concernés par le plan.
Il y a eu une pointe de personnel qui était la pointe qu'on a connue dans la production française en général, dans le boom français des années 70, 73. Et puis, quand on a annoncé la fermeture en 80, fin 81, c'était une décision qui était consécutive à la restructuration européenne de la sidérurgie. En France, on a eu des quotas. Les quotas ont amené à se séparer donc les grands groupes sidérurgiques français, Usinor et Sacilor de l'époque, ont été obligés de faire des coupes dans leur unité de production. Et nous, on a été une de ces coupes. Seulement, et c'est là que tout commence à s'enchaîner, au même moment qu'il a fallu faire des choix pour la sidérurgie française, il y a eu le choix de l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire. Ça s'est implanté chez nous, c'est nous qui avons fermé. Les antinucléaires étaient contre cette forme de fabrication d'énergie. Nous, non. On était contre la centrale de Chaux qui nous privait d'emploi. Ce n'était pas pour les mêmes raisons. Eux, ils mettaient en plus la dangerosité du nucléaire, les conséquences du nucléaire sur l'emploi social.
Le nucléaire créera des emplois dans les cimetières et les commissariats.
Alors justement, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais bon, dans une première phase, l'armée est débordée, quoi, en fait. Par contre, après, ils vont mettre les moyens, effectivement, il y a une certaine gradation. Les forces d'occupation changent de stratégie, ils décident de nous évacuer du village, donc les rassemblements sont interdits. Et là, l'affrontement va se faire à la sortie du village sur la route nationale.
Comme on avait interdiction de manifester, qu'on s'est fait sortir de Chaux et qu'on a passé la moitié de la journée à l'entrée du village à se faire charger par des blindés, ce qui est décidé, c'est qu'on va aller à fumer à la caserne du peloton spécial d'intervention de gendarmerie, qui est un corps de gendarmerie spécialement conçu pour surveiller les sites de centrales nucléaires. Et donc, à Chaux, ils sévissent, comme on disait tout à l'heure, là, ce sont ces gens-là qui contrôlent les gosses quand ils vont au bois, qui emmerdent tout le monde, qui ont contrôlé Robert chaque matin à 5h au moment où il part bosser en vélo, en lui demandant tous les jours son nom et ses papiers. Et il se trouve qu'en plus, ils occupent un immeuble d'une cité ouvrière à fumer, que les gens de fumée avaient revendiqué, puisqu'il était vide, à pouvoir occuper comme étant une maison sociale, enfin un lieu, centre social, etc. Ils n'ont pas eu, et à la place, ils ont eu le PSIG. Donc, et nous, on est allés là. Et effectivement, la manifestation a attaqué ce local. C'est-à-dire, on y allait avec cocktails, cailloux, lance-pierres, enfin tout le bazar. Et la manifestation, au lieu de se passer dans le village de Chaux, elle est aboutie là. Et les gens ont manifesté là. Là, ils ont réagi de façon extrêmement violente, effectivement, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ont tout bouclé, ils ont ratonné, quoi. Tout ce qui bougeait, ils ont tapé dessus, y compris des habitants qui sortaient de faire leurs courses, parce qu'on était en fin de journée, vers 7h. Et ils ont massacré tout ce qu'ils pouvaient comme bagnole, comme personne. Ça a pris des proportions assez incroyables, quoi. Et bon, alors fumer, bien sûr, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils ratonnent à ce point-là, évidemment, c'est pas ce qu'on cherchait, mais on a décidé d'y aller, enfin, je veux dire, et de s'arrêter là, et c'était pas du tout un hasard, et on a jamais été des victimes. Je veux dire, on a été en phase 2, effectivement, on n'avait pas les mêmes armes, mais pas les mêmes moyens, ça, évidemment, mais on n'a jamais été des victimes, hein. De bout en bout, on a décidé de ce qu'on faisait, en connaissance de cause, en pesant les choses... Et après, on a continué de réaffirmer cette position-là. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on n'avait pas eu tort de l'avoir fait, enfin de l'avoir décidé, quoi. Voilà.
On en vient au lien entre les samedis de fin de mois qui vont devenir un peu les samedis de vireux aussi. Parce que les vireux quoi ? Vont bloquer les routes. Ça va coïncider avec les samedis de fin de mois. Et les antinucléaires et les sidérurgistes vont se retrouver sur le même site, soit à occuper l'usine, soit à combattre les forces d'occupation qui maintenant se sont déplacées sur Vireux pour empêcher les sidérurgistes d'agir, quoi.
Et donc, eux, quand ils ont bloqué la route au niveau de la Chière, mais pour les véhicules de gendarmerie et tout ça, c'était plus possible de passer, quoi. Et la première fois qu'ils ont été emmerdés vraiment et qu'ils ont dû batailler une partie de la nuit pour pouvoir repartir, c'était en mars 82. Pour les antinucléaires qui bataillaient quand même là maintenant depuis plusieurs années, c'est vrai que ça a été vraiment...
Vraiment,
ouais, c'est ça, c'est... Enfin, on nous rejoignait, quoi. Et il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça.
En 79, il y a le projet d'extension de la centrale nucléaire à Chaux. Et on voulait savoir quelle réaction il y a eu par des gens de, au niveau des gens de Virreux, au niveau de la, des gens de la région
pas de réaction spéciale. Je vous dirais que moi aussi, j'y ai travaillé à la première centrale. Donc, à l'époque, il y avait pas mal de personnel du coin. Mais c'était la première, personne n'avait entendu parler de centrale nucléaire dans le coin. C'était du travail comme un autre, et du travail qui payait beaucoup plus que dans la région. C'était des salaires beaucoup plus élevés que les salaires d'usine. La centrale, moi, elle se faisait. Je crois que si l'usine avait continué à tourner, les antinucléaires auraient été tout seuls à aller manifester. Hein. Maintenant, ça s'est fait. Les deux choses se sont faites en même temps. Donc, les deux parties ont travaillé ensemble. Parce que d'abord, il a été dit aussi que la centrale se construisait, l'usine fermait, mais la centrale absorberait une grosse partie des chômeurs de l'usine. Quoi. Ça n'a jamais été vrai.
Et donc, la rencontre, elle s'est faite sur quelque chose de pratique. Est-ce qu'on peut raconter un peu comment ça s'est passé?
Ça a profité au dé. Ça s'est passé, je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Hein, puisqu'il y a même arrivé un moment où les ouvriers de la Chire sont montés jusqu'à Chaux, ont été brûlés. Le poste de garde de la première centrale. Hein, ça, il a quand même bien brûlé, celui-là. Mmh. Ce n'était pas les antinucléaires, c'était en semaine. Ben, à l'époque, je travaillais sur le train sac. Hein, c'est le nom du constructeur du laminoir. J'étais premier des fourneurs, ce qui consistait à distribuer les lingots sur le train, qui devaient être laminés pour faire de la barre ou de la couronne. Voilà.
Tu as travaillé combien de temps en fait?
13 ans. Là-bas. J'ai travaillé 13 ans, oui. Jusqu'à la fermeture. Voilà. Le petit village comme Virreux, il y a 4000 habitants sur deux villages, il y a 900 emplois ou 1600 emplois auparavant. Ça fait quand même vivre un certain nombre de familles. Le gamin rentrait là à 14 ou 15 ans. Hein, il pouvait faire son apprentissage et sa carrière à l'usine. Travailler avec son père et son grand-père. Donc c'était des familles complètes qui ont travaillé à la fermeture. C'était des familles complètes qui étaient aussi sans boulot.
Je me présente. Moi, j'ai 62 ans. J'ai travaillé 27 ans sur l'orangerie. J'ai commencé comme simple ouvrier, manœuvre, et j'ai fini chef d'atelier. Alors, conditions de travail à la Chière, on avait beaucoup de blessés. Moi, je me souviens d'une année où il y a eu 5 morts, quand même. Parce qu'on était habitué comme ça, parce qu'on travaillait sans sécurité, que ce soit la poussière, que ce soit le bruit, que ce soit... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amiante. Nous, l'amiante, on manœuvrait ça à la pelle tous les jours. Hein. Bon, mais c'était très dangereux. Moi, j'ai vu beaucoup de copains, j'ai des copains qui sont morts. Beaucoup de copains blessés, et c'était le quotidien de tous les jours. Il y avait un blessé tous les jours. Avec 4 services qui fonctionnent à plein, avec 1100 personnes, c'est normal qu'il y ait des blessés tous les jours. On travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, en heure supplémentaire, c'était comme ça. Notre vie était rodée comme ça. On connaissait les vacances, top. À le restant, on était à l'usine 7 jours sur 7. Puis on n'a pas été non plus formés intellectuellement pour aller à l'école. On est des fils d'ouvriers. Celui qui est en ville, celui qui est à Reims, celui qui est à Paris, il va pouvoir se former. Nous, s'il n'y a rien. Donc, on est formé pour être ouvrier, travailler dans une usine. C'est ça aussi qu'il faut expliquer aux gens. Hein, ce n'est pas toujours évident de dire on va aller à l'école. Quand on sait déjà, quand on va à l'école, à 6 ans, qu'à 14 ans, on ira à l'usine, pourquoi se casser la tête? C'est vrai que ça fait mal, moi. Alors, on dit, on s'est dépensé pendant des années. La nuit, le jour, 16 heures aujourd'hui, 16 heures demain, le samedi, le dimanche, patati, patata. Parce qu'on donne sa vie, finalement, à l'entreprise. On donne sa vie à l'entreprise pour arriver, au bout d'un compte, dire, on a besoin de toi, tu travailles. Quoi qu'on soit, n'importe où, on n'est qu'un numéro. Tout va bien, vous êtes un bon élément. Tout va mal, vous êtes un numéro. Que vous soyez malade, que vous soyez à l'hôpital, c'est pareil, vous avez un numéro. Hein? Donc, moi, je dis, partout, vous avez un numéro.
Vireux n'est peut-être qu'une bombe à retardement. Il suffit pour cela d'écouter la réaction de cet ancien ouvrier de la Chière.
J'ai 25 ans, là. Il y a 7-8 ans, là, on couchait à l'usine parce qu'il y avait du travail. Et maintenant, on vient dire que c'est pas rentable. Mais faut pas prendre les gens pour des cons. Et votre Mitterrand est tout à l'heure. Pourtant, j'ai voté socialiste. Croyez que ça allait changer. Et bien, c'est exactement le même. C'est tous. Une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est pour leur portefeuille. Le pauvre type d'ici, eh bien, c'est un con. Il peut crever. Et on les connaît, ces gens d'ici, quand il y a une guerre, pour leur foutre un fusil sur le dos et aller faire les cons. Mais quand ils défendent leur travail, eh bien, c'est des salauds.
Bon, on a parlé de fermeture des usines, on a parlé de la maintenir, on se battra, il n'y a pas un boulon qui sortira, hein, j'ai entendu ça textuellement, pas un boulon ne sortira de l'usine. Puis après, on a commencé à parler de plan social. Bon, ben, c'était où ça a rappelé, quoi.
Même partout, va. Bah. Maintenant, ça nous fait même marrer quand on entend... Bon, oui. Après, il y a eu l'usine, c'est la Tex, à Givet, tout ça. Quand on les a vus qu'ils ont commencé, ils ont dit « on se battra, on se battra bah. ». On a dit « c'est râpé pour eux aussi hein. ». Oui. Quand on... ça commence partout, oui. C'est foutu. Hein. De toute façon, quand ils ont décidé de fermer quelque chose, ils ferment. Hein. Pas de problème.
Ouais. Par rapport au rôle des syndicats à l'intérieur de l'usine, en fait, de la chair, parce qu'à l'époque de l'annonce de la fermeture de l'usine...
Il y a eu l'intersyndicale qui s'est créée. Hein. Ça s'est créé très très vite hein, pour essayer de, bah, aussi de rassembler plus de personnes sous le même chapeau pour tirer dans le même sens quoi, hein. Mm-hmm. L'intersyndicale bon, c'était CFDT, FO, CGC, mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des gens de la CGT qui suivaient l'intersyndicale. Mm-hmm. Hein, donc ça rassemblait tout le monde quand même. L'intersyndicale c'était pas un syndicat.
Et c'est vrai que finalement, même dans ce conflit-là, on a l'impression que les centrales, elles ont été très vite mises à distance, les centrales syndicales.
Ah ben, elles ont été débordées, le temps de le dire, ça c'est clair. Oui. À mon niveau, moi je faisais partie de la CGT, on a eu des directives, on a eu des mots d'ordre qu'on n'a pas suivis.
C'était quoi hein. Les mots d'ordre
ben, c'était de regarder un petit peu, sans trop participer. Hein, on n'avait pas à prendre, on n'avait pas à aller se battre avec les forces de l'ordre. Hein, Et puis on a mis les choses au point, on est monté à la centrale, on a été mettre les choses au point. Parce qu'il y avait eu des articles dans les journaux en disant qu'on était des délinquants, des sorties de la ligne de la CGT. Quoi. Donc on a été mettre les choses au point et puis tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux, quoi, en étant poli. Ouais, tu la fermes et puis voilà, moi je parle. Et puis on est quand même resté CGT sans les écouter, en faisant ce qu'on voulait. Le groupe qu'on était de la CGT, on a été manifesté, on a fait ce qu'il y avait à faire, avec l'intersyndicale, sans rentrer dans l'intersyndicale, en étant à côté. Et puis bon, ben, nos dirigeants ben, regardaient, c'est tout. Ça leur plaisait pas, alors, si bien qu'à la fin on ne les voyait plus beaucoup. Quoi. Au départ, ils sont mis sur place pour essayer de remettre tout le monde dans le droit chemin. Bon, ben, ça n'a pas trop marché, quoi. Hein. Et puis, voilà. Et après, ils ont été faire leur réunion aussi, ils sont allés en préfecture, ils sont allés négocier, ils sont partis, puis ils sont revenus, ces gens-là, en étant directeur de boutique. Ceux qui montent une boutique, c'est leur droit. Ouais. Mais ça se fait, ça se passe dans le dos des gens qui représentent. Moi, à mon niveau, j'ai été déçu par la façon d'agir de certains syndicats. On est là pour défendre son casse-croûte, pas pour défendre les idées ou la ligne, la directive de la centrale. Les délégués sont élus par les ouvriers, pas par la centrale. Donc on doit être au plus près des ouvriers. Non, c'est à partir de là, quand ça marche pas, ben, on essaie de faire changer les choses ou on s'en va. Quoi. Pas la peine de se buter des deux côtés ou des discussions stériles, ça sert à rien. Surtout dans ces cas-là, il vaut mieux agir que de discuter.
Toi, par exemple, après la fermeture de la chair, t'es...
J'ai plus été syndiqué. Ouais. Non. C'est terminé.
Ah, moi, je suis plus syndiqué non plus. Je ne vote même plus, moi. C'est terminé, je ne suis même plus inscrit au bureau de vote. C'est terminé.
Je n'en ai pas parlé, mais j'étais responsable syndical. J'ai eu deux organisations syndicales dans lesquelles j'ai milité. J'ai milité à la CGT et j'ai retombé chez FO, à la TITES. Mais chez nous, il y avait essentiellement CGT, CFDT. Quand on a annoncé cette fermeture, on a bien été obligé de discuter tous ensemble pour savoir s'il y avait quelque chose à faire, à voir, comment on pouvait le faire. On a eu une majorité qui a formé une intersyndicale, CFDT, CGC, FO, et de l'autre côté, il y avait la CGT.
La majorité des syndicalistes dans l'intersyndicale étaient des cadres ou des collaborateurs. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers.
Tu étais syndiqué, toi, déjà?
Ah oui, mais j'ai toujours été syndiqué, et je suis encore syndiqué aujourd'hui, malgré que je suis en retraite. Syndiqué, pourquoi? Parce que bon, c'est la seule façon de pouvoir se réunir entre personnes qui prennent des décisions. Puis bon, et j'ai toujours été syndiqué. Alors syndiqué en premier à CGT, et après par la force des choses, puisque j'étais responsable, donc à la CGC. La CGC qui, avec le recul, hein, finalement on était un peu à la botte du patron. Quoi. Pourquoi ? Ben parce qu'on était toujours un peu entre le marteau et l'enclume. Quoi. Donc, elle est là pour exécuter les ordres du patron. Et ça ne passe pas toujours bien avec les ouvriers. Mais enfin bon, parce qu'il faut savoir que bon, quelques éléments quand même, on dit on n'est pas d'accord, mais c'est rare les éléments qui sont cadres et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Moi j'étais CGC, bon, ce qu'on m'a dit un jour, avant d'annoncer la fermeture, on m'a dit bon Camille, on va fermer, si tu veux on te recase ailleurs. Donc bon ok, tu vas à Saint-Étienne, mais tu dis à personne. C'était déjà en vue de la fermeture, donc on savait déjà que ça allait fermer. Donc pour vous dire que déjà, du côté de la direction, ils ont essayé de recaser un peu les gens qui étaient recasables au niveau de l'encadrement.
Fin du premier épisode. L'intégralité du montage est disponible sur Internet à l'adresse suivante internetdown.org.